cachet oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux acquis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans cet échange citoyen. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, préconise la dépénalisation des avortements pour faire reculer le phénomène des bébés abandonnés. Une certaine opinion pense que cette loi fera effectivement reculer ces problèmes de société de plus en plus récurrents en République démocratique du Congo. Une autre, par contre, estime que cette loi ne dissuadera pas certains parents à abandonner leurs enfants et risque même de heurter les mœurs congolaises. Comment réagissez-vous? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie dans cette émission. Héritier Sidiakala est à la technique. Feza Julie Bongonda et Pierre Lamegi sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungenbo. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Tous les jours.
Okapi dans du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Okapi dans New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais ici et d'ailleurs.
Nous avons le premier auditeur qui est en ligne, Maître Bavinga, vous êtes à Matadi, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Maître Bavinga, vous avez la parole.
Merci pour la parole que vous m'accordez. Dans ce jeu, je dirais que cette loi n'est pas vraiment la bienvenue dans notre pays. À l'exemple, peut-être que cela va heurter vraiment le mœurs de la République démocratique du Congo, et je ne cesserai de le dire sur la radio Okapi. Lorsqu'une loi est prise, cette loi doit répondre à un besoin de la société et de deux, doit tenir compte des différentes réalités sociales d'un État quelconque. Nous sommes en Afrique. En Afrique, la vie est sacrée. Et par rapport à cette loi, je voudrais aussi ajouter hier, ce n'est pas le fait de prendre et de pénaliser l'avortement que ce phénomène qu'on est dans un recul. Je prends l'exemple de la prostitution. Dans notre pays, la prostitution n'est pas érigée en infraction. Mais ne sommes-nous pas en train de voir de petites filles en train de se délinquer ou de se prostituer partout dans le route? Est-ce que ces jeunes filles ne sont-elles pas en train de contracter le virus du sida alors qu'il y a la possibilité pour elles de se faire dépister? Mais comme la loi n'a pas érigé de la d'infraction, c'est là qu'on est un dérapage. C'est comme j'ai dit, en Afrique, parfois nous ne savons pas gérer les choses. Lorsqu'on aura libéré l'avortement dans notre pays, je vous assure, JR, que ça n'aidera pas. Si vous prenez l'exemple des pays européens, les pays européens ont connu un grand dérapage. Je prends l'exemple de la France, où presque à chaque 27 minutes, il y a avortement. Or, eux, parfois, ils ont des soucis qui sont bien établis pour s'occuper de toutes ces filles ou toutes ces femmes qui avortent médicalement. Mais dans notre pays, si en France, le problème se pose parce que les vies des gens sont ôtés et cela constitue le meurtre par rapport à droit pour l'article 44. Un fœtus, c'est déjà une créature humaine. Lorsqu'on les tue, c'est déjà du meurtre. Bon, moi, ce que je demanderais, premièrement, au Premier ministre, au vice-premier ministre, est-ce qu'il y a-t-il des structures médicales adéquates dans notre pays qui seront en train de faire le suivi? Parce que s'il faut avorter une femme, il faut le curetage, il faut des moyens pour cette femme-là, il faut la prise en charge après. Est-ce que nos hôpitaux sont-ils à mesure de prendre en charge ces femmes? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, est-ce que les gens auront-ils des moyens pour aller voir les médecins en vue de se faire apporter médicalement? Moi, je pense que ça ne va pas se baisser. Parce que la vie des gens est faible, le coût de la vie est faible. Les gens n'auront pas toujours accès à l'hôpital pour le curetage et ça va créer une sorte de délinquance. Les jeunes vont se dire, ah, je peux contacter, je peux être engrossé et je vais voir les médecins. Et lorsqu'on n'aura pas de moyens, ça sera compliqué. Et moi, je pense que cette loi n'est pas la bienvenue parce qu'elle n'aidera pas d'autres pays à aller de l'avant. Et puis, ça ne va pas toucher à la conscience des gens. Hier, vous savez, lorsqu'une femme va se faire avorter, le médecin n'a pas l'obligation des résultats, il a l'obligation des moyens. Et les médecins vont commencer à se prévaloir de cette obligation. Lorsque les choses ne vont pas marcher, que cette femme trouve la mort, les médecins vont te dire, moi j'ai administré tous les médicaments. Et que cette personne est décédée parce qu'elle n'a pas l'obligation des résultats. Et puis des deux, la morale va connaître un déclin total. Parce que la femme qui va se faire avorter, elle ne va pas se reprocher parce qu'elle va se dire, en fait, c'est la loi qui me permet de le faire. C'est pour vous, tous ceux qui vont se procéder, qui ne te reprochent jamais. Parce qu'ils te disent que la loi n'a pas érigé sa infraction. Et il y a des victimes. Donc les femmes, les gens seront inconscients parce que ça ne sera pas par leur fait, mais ça sera par les faits de la loi. Et moi, je pense que c'est plus important pour atterrir la solution, c'est promulguer, c'est vulgariser la pénalisation de l'avortement. Est-ce que tout le monde sait qu'il y a la pénalisation de l'avortement? Et voir les gens être sanctionnés, et cela constituera un pouvoir dissuasif pour pousser les gens à pouvoir ne pas pratiquer toutes ces choses au lieu de se pénaliser. Est-ce qu'il y a déjà vulgarisation? Est-ce que les gens savent que l'avortement est une infraction? Est-ce que, enfin, les gens sont-ils sanctionnés par rapport à ces faits?
Merci beaucoup, Maître Mavinga. C'est vrai, vous partagez l'avis selon lequel que cette loi ne dissuadera pas certains parents à abandonner leurs enfants et risque même de heurter les mœurs congolaises. Merci beaucoup. Benjamin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Benjamin.
Oui, bon, à mon entendement, cette loi n'a pas raison d'être. Quand on voit l'avortement dans son sens propre, l'avortement, quel que soit, qu'il soit volontaire ou criminel ou légal, médicalisé, l'avortement est un acte homicide. La dépénalisation n'est pas vraiment la solution idéale pour lutter contre l'abandon de mort né, qu'a dit le ministre. On dit bien, il y a un adage qui nous dit, dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il lutte contre les effets et non la cause. Alors, à mon avis, la piste de solution serait de voir quelles sont les mesures à entreprendre pour lutter contre tous ces actes.
Les causes de ces phénomènes.
On va voir, on verra peut-être l'éducation sexuelle des adolescents, le planning familial. Par travers le planning familial, on pourrait éviter les grossesses non désirées. On peut procéder au secret radical, les consultations prénatales radicales peuvent prévenir les fausses couches et les dystopies. Quand c'est l'avortement, qu'il soit criminel ou un avortement légal et médicalisé, il y a toujours des conséquences et les complications spontanées. Dans les complications, on a plusieurs types de complications. On peut avoir des complications immédiates, comme les complications immédiates, on peut avoir les hémorragies, les ruptures les perforations utérines. On peut avoir même des complications tardives, des complications lointaines, qui sont même la stérilité elle-même, est une des complications lointaines des avortements, qu'ils soient criminels ou médicaux légalisés. Et en plus, on peut voir aussi même les retombées psychologiques, même de la personne qui s'est fait avorter. Donc, l'avortement, c'est un acte homicide. Je n'ai pas vraiment voulu assez que je
ne sais pas. Trop en détail. Voilà, merci beaucoup, Benjamin. Pour vous, il faut s'attaquer plutôt aux causes et non aux effets, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et vous avez souligné trois aspects des choses, notamment l'éducation sexuelle des ados et le renforcement du système de planning familial, qu'il s'agisse des IMG ou des IVG, donc interruption momentanée de grossesse ou interruption volontaire de grossesse. Il y a toujours des complications, que ce soit des complications immédiates ou lointaines, et ça constitue toujours des complications. Alors, vous ne voyez pas l'opportunité ou l'importance de cette loi qui n'est pas encore en fait adoptée, qui n'est fait qu'une proposition en fait lors de son passage à l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a préconisé cette loi pour faire reculer en fait les phénomènes abandon des bébés que nous enregistrons, qui c'est un phénomène qui est devenu très récurrent à travers les pays. Merci beaucoup. 081 890 6315 pour votre intervention en direct.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Alors nous revenons dans ce studio et nous accueillons notre invité, le premier, en tout cas on en aura trois aujourd'hui, un sociologue, un théologien moral et également un juriste pour en fait avoir le regard des uns et des autres. Monsieur l'abbé Marcus, vous êtes sociologue, vous avez suivi l'intervention de Benjamin qui a évoqué en fait les causes qui font qu'aujourd'hui les populations s'adonnent ou s'élivrent à cette pratique et qui constituent un phénomène des sociétés, l'abandon des bébés pour les gouvernements. Pour faire reculer ces phénomènes, il faut dépénaliser l'avortement. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de Benjamin qui évoque d'abord la lutte qui doit être menée à l'amont, c'est-à-dire pour s'attaquer aux causes? Bonjour, monsieur l'abbé.
Oui, bonjour, Gilles.
Voilà, vous avez la parole.
Ok, merci pour la parole. Je corrige d'abord, je ne suis pas directement sociologue, mais bon, comme philosophe et comme prêtre, donc on est en contact avec la société et comme professeur d'université, donc on a quand même un point de vue qui peut peser pour, enfin voilà, commencer par ça. Alors, quant au problème, je trouve que le ministre, dans ce qu'il propose, il parle de, pour résoudre le problème de l'abandon des bébés, il faut dépénaliser l'avortement. Donc voilà ce que le ministre fait. Il dit, au lieu qu'on jette les bébés dans la rue, jetons-le à l'hôpital. Donc en fait, il est en train de soutenir cette mesure-là. Donc ce n'est pas une solution fondamentale parce que on change seulement de lieu où on jette les bébés et le moment où on jette les bébés. Donc au lieu de les jeter quand il est des années, jetons-le avant. Donc je crois que ce n'est pas une solution. Donc on est en train de déplacer simplement un moment. Donc je rappelle que c'est un meurtre et ça reste un meurtre. Et lui, quand il va dans le sens d'encourager un meurtre, je trouve que sur le plan moral, ça ne peut pas marcher. Alors que le problème, c'est un problème d'éducation. Comme disait mon ami de tout à l'heure, c'est un problème d'éducation sexuelle à assurer. Et chez nous, ici, on doit aller dans ce sens-là, mais davantage, c'est là que le gouvernement doit se sentir beaucoup plus interpellé. C'est un problème de responsabilité des parents dans cette éducation. Aujourd'hui, les parents n'ont plus d'ascendance sur leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de moyens pour s'occuper de ces enfants-là. Lui, comme ministre, il a un salaire de, je sais pas moi, de 10, 15 000 dollars par mois et il donne, son gouvernement donne à des parents un salaire de 50 000 francs. Et vous trouvez que ce papa-là, cette maman, doit être capable de s'occuper de tout son frère, de tous ses enfants, et d'aller, donc il est obligé d'aller compléter ici et là, et donc il ne s'occupe pas de l'éducation de ses enfants. Voilà ce qu'il faut commencer par corriger. Donc, le gouvernement rémunère comme il se doit les parents, et que les parents soient capables de prendre en charge l'éducation complète de leurs enfants, et je crois que les conséquences pourraient diminuer. Mais si si le gouvernement opte pour une telle décision, je crois que c'est très irresponsable.
Oui, l'abbé Marcus, il s'agit pas d'un phénomène typiquement africain ou encore mieux particulièrement congolais, parce que nous vivons pratiquement le même phénomène, même dans d'autres sociétés, que ce soit qu'il s'agisse de la société occidentale ou orientale, on vit pratiquement ces phénomènes là où on s'imagine, où on imagine que la pauvreté n'a pas atteint le même niveau que l'Afrique aujourd'hui. Mais on sent qu'il y a existence de ces phénomènes. Alors, mais comment expliquer que ce problème se pose aussi à l'Occident ou encore à l'Orient, mais aussi à l'Afrique? Mais ici, en Afrique, particulièrement, on va pouvez responsabiliser, on oriente vers la question de l'éducation, qui doit être la solution idéale.
Parce que le problème ici chez nous, c'est cela. En Occident, c'est peut-être un problème d'une morale qui est orientée vers le plaisir, vers une liberté exagérée de la personne humaine. C'est peut-être ça le problème. Mais chez nous, le problème en Afrique, c'est un problème de moyens pour rendre les parents capables d'assurer l'éducation de leurs enfants. Moi, je suis sûr que si on autorisait, on rendait plus efficace l'éducation, la capacité des parents d'éduquer leurs enfants, on va avoir un peu moins de ce problème-là. On ne doit pas oublier qu'il y a quelques années, ce n'était pas nécessairement le cas, parce que la sacralité de la vie, l'Africain l'accepte. Et nous savons tous que c'est la vie est sacrée. Et c'est pas pour rien que quand on jette ces enfants-là dans les images que les chaînes de télévision montrent, que les gens viennent et même les tout jeunes reprochent à leurs enfants, à leurs amis d'avoir fait une telle chose. C'est pas pour rien parce que donc c'est déjà ancré. Mais pour nous, malgré ça, ils le savent, même les filles qui le font le savent que c'est mauvais. Mais ils le font parce qu'elles sont coincées. Parce que justement, elles n'ont pas suffisamment d'éducation et elles n'ont pas, même pas de moyens, des ressources de survie. Et souvent, elles en arrivent là parce que l'homme, le garçon qui l'a rendu mère est incapable de s'occuper de ceci et de cela. Voilà, étant bloqué avec un petit raisonnement, eh bien, la solution c'est d'aller jeter cet enfant.
Oui, il y a Benjamin qui a proposé également le renforcement du système de planning familial dans notre pays. Ça pourrait être aussi une des solutions qui pourrait aider à résoudre ce problème et nous passer de la dépénalisation.
Ok, là c'est au moins une mesure plus responsable que la mesure que propose la fuite en avant qu'est en train de proposer
le vice-premier ministre.
Donc, on ferait mieux d'aller peut-être dans cette direction-là. Donc, à côté de l'éducation, on ajoute ce que vous venez de dire, qu'on essaye de...
Voilà. Voilà, le planning familial.
Oui, le planning familial, surtout pour les adultes, donc les parents qui sont déjà là et qui doivent aussi gérer leur progéniture, donc organiser leur progéniture, parce que là, on a effectivement aussi le problème. Par exemple, nous, on a une sentinelle quelque part, il a déjà dans les 60 ans, mais il a encore un enfant de 9 mois et il était en train de projeter d'avoir un autre enfant prochainement. On devait discuter avec lui pour le rendre plus conscient, lui permettre de savoir que bon, les enfants qu'il est en train de faire à un âge très avancé n'auront pas beaucoup plus de choses qui s'occupent d'eux. D'ailleurs, il n'a même pas un emploi correct et mal rémunéré comme les salaires pour la plupart des cas ici chez nous en RDC. Alors, il a fini par comprendre. Donc, faire des sensibilisations pareil, auprès des adultes, ça pourrait aussi diminuer. Ce phénomène. En tout cas, pas aller faire la dépénalisation comme le propose le
gouvernement. Voilà, alors on va prendre Arsène qui est à Kikwit. Monsieur Arsène, nous vous gardons à ligne. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Voilà, vous avez suivi les uns les autres, ainsi que notre invité tout à l'heure, l'abbé Marcus Bidungwa, qui est philosophe et professeur à l'Université catholique et dans d'autres universités supérieures et universitaires de la RDC. Alors, Arsène, vous avez compris la thématique. Il y a le gouvernement qui préconise, en tout cas, par le biais du ministre, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Ébouchade, la dépénalisation de l'avortement pour faire reculer le phénomène des bébés abandonnés. Alors, une certaine opinion pense que cette loi fera effectivement reculer ces problèmes de société de plus en plus récurrents en RDC. Mais une autre, par contre, estime que cette loi ne dissuadera pas certains parents à abandonner leurs enfants et risque même de heurter les mœurs congolaises. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup pour la parole, M. Junier. Je crois que les professeurs ont déjà décidé quelques problèmes que nous aurons si cette loi passait. Mais moi, je fais une approche un peu politique. J'ai l'impression que nos autorités arrivaient à un certain moment, une fois que, en fait, une menace précision de la population congolaise.
Arsène, s'il vous plaît, là vous sortez vraiment très coupé. On ne saura pas vous garder le plus longtemps possible en ligne, mais sinon, vous pouvez peut-être changer de position. On verra si la communication pourrait s'améliorer. Voilà.
Je voudrais faire une approche un tout petit peu
politique.
C'est la vision politique qui oriente les décisions. Parce que je suis en train de remarquer que moi, les gens, à ce test,
voilà. On va vous laisser changer un peu de position. La réalisation va nous aider. On va prendre Rémi qui est à Caminac. Rémi, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour, Radio Kabi.
Vous avez la parole, Rémi.
Oui, moi, je peux penser qu'il faut la dépénalisation que le ministre est en train de prononcer aujourd'hui et n'a pas raison d'être. C'est pas pour dire que non, il faut encourager l'avortement pour diminuer les nombres, l'effectif des enfants de la rue. Et pour que vous dites que la rue n'a pas même d'enfants. Il suffit juste de partir de l'éducation. Vous partez, vous dites non, tout celui qui fait la grossesse non désirée. Tu peux venir quelque part les projets dans l'enfant. Parce que notre constitution est en train de prôner d'abord pour dire que non, la vie est sacrée. Et aujourd'hui, vous autorisez que quelqu'un avorte pour dire que la vie ne peut sacrée. Pour moi, juste, non, ministre, veuillez se laisser dans l'histoire en cherchant beaucoup plus d'histoire à mettre dans la constitution pour que un jour, on dit non, c'était qui avait inventé ça. Ça n'a pas raison d'être aujourd'hui. Nous devons promettre.
Ben oui, mais Rémi, je ne sais pas. C'est vrai que nous référons à l'article 16, comme vous l'avez dit, de notre constitution, on se rend compte effectivement que la personne humaine est sacrée. Mais il faut noter également que dans les droits modernes, aujourd'hui, la solution est généralement que le nouveau-né n'acquiert sa personnalité juridique qu'à la naissance.
Oui, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au lieu de pénaliser, même de créer des endroits là où quelqu'un est incapable de garder son enfant, peut venir l'amener et peut-être que le gouvernement peut en prendre en charge qui est détrué. Dans ce sens-là, on est en train de tuer. Vous savez, demain, l'enfant là sera qui pour ce pays.
Voilà, donc pour vous, il ne faudrait pas qu'on laisse passer une telle proposition. Vous rejoignez clairement donc la thèse selon laquelle que cette proposition risque même de heurter le mœurs congolaise.
Oui, ça n'a pas vraiment raison d'être. Ça ne sert même pas.
Ça ne sert pas la langue. Merci beaucoup.
Pour quand même discuter sur ça. Ça n'a pas raison d'être.
Merci beaucoup, Rémi. Ignace, vous êtes à Colésie. Bonjour, Ignace.
Bonjour les invités, même s'il n'y a que l'un qui a parlé. C'est un problème qui suscite le problème de culture et de morale. Nous sommes des Africains, nous avons notre culture et nous devons la conserver et la protéger. Je crois que la civilisation ou la modernité ne consiste pas à imiter les tendances trop libertaires de certaines sociétés occidentales où, pour telle ou telle autre raison, semblent minimiser la vie humaine. Je voudrais que le ministre, j'aurais voulu qu'il ait pris le temps, parce que c'est un problème très 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 pertinent. Il fallait peut-être associer à cette réflexion, avant qu'il puisse faire cette proposition, il devrait créer un cadre de concertation ou un cadre de réflexion où se trouveraient des experts dans ce domaine-là pour discuter et voir les tenants et les aboutissants. Je crois qu'il y a eu une sorte de précipitation. Nous sommes en train de déplorer la façon, permettez-moi de dire cela parce que c'est un sujet d'actualité, le problème de Maluku tout à l'heure. On se plaint, on a senti qu'on a touché les valeurs sacrées de la vie humaine. Alors, proposer la dépénalisation de cette pratique, c'est serait pratiquement inviter les gens à y aller en toute liberté. Peut-être faudra-t-il dire au ministre de s'exprimer clairement par rapport aux mesures d'encadrement qui devront suivre cela. Mais qu'on le veuille ou pas, je crois que cette pratique ou cette proposition est à retirer carrément. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre au lieu de daigner dans ce qui est sensible et qui risque de choquer davantage la société africaine. Donc chez moi, il y a un problème de culture africaine que nous devons respecter. Nous devons aussi dire que ce sont là les conséquences depuis que notre système éducatif a négligé l'enseignement de la morale. On se retrouve aujourd'hui, on est en train de produire des gens qui font très peu, qui font très peu pas à la vie humaine. Donc, je pense qu'on doit beaucoup plus renforcer la morale, l'enseignement de la morale dans nos institutions d'éducation et aussi encourager et impliquer les institutions d'éducation. Je pense ici à l'Église, je pense à bien d'autres institutions d'éducation, de sorte que l'on puisse de remettre la valeur à la famille. C'est un problème de l'État. Remettre de la valeur à l'éducation et au respect de la valeur humaine. Voilà ce que c'est ma préoccupation, mon intervention.
Oui, Ignace, nous vous gardons encore en ligne. Ne quittez pas, Ignace, parce que quand vous avez parlé de risque même de heurter les mœurs congolaises, mais il faut noter que nous sommes africains, mais aujourd'hui il y a bon nombre de pays, il y a beaucoup de pays qui ont fait quand même un pas par rapport à cette question. En Afrique du Sud, aujourd'hui l'avortement est légal. Au Maroc, seul est autorisé l'avortement dit thérapeutique au nom de la santé. En Tunisie, il y a des débats d'avortement illégal. Nous allons encore plus loin dans d'autres pays. Donc, on sent qu'il y a cette volonté au Mozambique. Il y a cette tendance d'aller vers la modernité, la révolution de la modernité dans ce sens-là. Pourquoi nous allons nous empêcher, nous, Congolais, simplement, à ne pas y aller?
Je reviens encore sur la mentalité congolaise. Vous voyez, lorsqu'on propose ce genre de choses, il y aura beaucoup de glissements. Et il y a une autre question que l'on doit se poser. À quel niveau nous saurons que tel avortement est bel et bien a été fait pour des raisons purement médicales ou que c'est par tricherie? Vous connaissez les glissements qui se passent dans notre société. Donc c'est pas le moment. On risque de produire des situations dangereuses et on va remplir nos prisons. Donc c'est un problème de mentalité, un problème de culture aussi, je reviens sur cet aspect. Nous ne sommes pas encore prêts et je reviens pour dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien vraiment, ce n'est pas le moment et ça ne correspond pas à notre pratique.
Voilà, il y a Maxime Kabila de Lubumbashi qui dit ceci, dépénaliser l'avortement dans ce pays, c'est accroître la criminalité que jusqu'à ce moment, l'opinion nationale et internationale déplore dans cette affaire de charnier de Maluku. Le vice-premier ministre, selon John Odian de Butembo, et ministre d'Intérieur, ne devrait pas dire ça, il devrait plutôt analyser ensemble avec ses collègues ministres, en l'occurrence le ministre de l'emploi et de la santé publique, les causes d'avortement et l'abandon des bébés. Ce n'est pas la loi qui va mettre fin aux rapports sexuels et les ministres vont contrôler tout avortement, mais plutôt résoudre le problème de la pauvreté. Et c'est à travers l'éducation sanitaire qu'on peut sensibiliser la population sur la grossesse non désirée et le rapport sexuel non protégé. Les deux solutions peuvent tant soit peu reculer l'avortement et l'abandon des bébés. Voilà, on va prendre également un maître Jérôme qui vient de nous rejoindre, mais un mot encore avec Monsieur l'abbé Marcus Bédumba. Vous venez de suivre cette série, Monsieur l'abbé. Comment vous réagissez d'abord?
Je pense que le ministre est parmi le gouvernement est en train de comprendre que ce n'est vraiment pas.
Voilà, Monsieur l'abbé, si vous pouvez éteindre votre poste récepteur parce que ça fait vraiment un double signal, comme on sait dire. Il y a interférence, il y a des échos qui dérangent un peu votre intervention.
Ok, d'accord. Donc c'est fait.
Voilà, allez-y.
Ouais. Donc j'étais en train de dire que je pense que le gouvernement est en train de comprendre que avec cette mesure, on n'a pas la bonne solution. Pour un problème, on peut avoir plusieurs solutions, mais en tout cas, avec cette dépénalisation, ce n'est pas la bonne solution. Il y a encore beaucoup d'autres mesures sur le plan moral, sur le plan notamment éducatif, j'insiste là-dessus, sur le plan de l'autonomisation des éducateurs, sur le plan économique, de la pauvreté, même de la misère des populations et surtout des parents à soulager. C'est d'abord ça qu'il faut faire avant de passer à cette loi extrême que les sociétés occidentales ont déjà votée et que les autres sociétés africaines commencent à voter également. On ne doit pas entrer dans la modernité comme si la modernité n'avait que des valeurs à 100%. La modernité a ses limites également. Il y a des excès qu'on déplore déjà dans ces autres sociétés-là, où on a simplement réduit la personne humaine à un niveau où il devient presque pratiquement immoral, il n'a plus de loi, il ne s'interdit plus rien, il fait tout, on ne va pas arriver jusque-là. Nous sommes pas, nous avons tout pour échapper à tous ces excès. Alors faisons, tournons nos yeux vers ce qui est essentiel, et je répète et j'insiste, que les parents soient outillés à bien éduquer leurs enfants.
Alors, monsieur Abbé, nous vous gardons encore en ligne. On va avoir aussi le regard d'un juriste par rapport à cette question. Maître Jérôme Nongo, vous êtes juriste indépendant. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Voilà. Aujourd'hui, on parle de cette proposition du gouvernement congolais. En tout cas, ce n'est pas encore officiel. Nous avons tous suivi le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, lors de son intervention à l'Assemblée nationale, qui préconise, au fait, la dépénalisation de l'avortement pour faire reculer le phénomène des bébés abandonnés. Est-ce que cela tient quand même la route?
Voilà, monsieur Gilles, je suis avec attention l'intervention de mes prédécesseurs. La question est d'actualité. Il est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, c'est fraude des conceptions en matière de natalité. Il y a une philosophie pronataliste qui est encore aujourd'hui en Occident, et il y a une autre anti-pronataliste qui est en vogue dans nos pays africains généralement, et anti-nataliste. Et notre pays, se voulant un état de droit, a suscrit pour la conception pronataliste. C'est ainsi que, dans la Constitution, à partir du titre second, il est réservé tout un chapitre sur les droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs de citoyens. Et sur combiné des articles 11 et 16, transpire clairement la volonté du constituant que la vie humaine est sacrée et l'obligation de la respecter et de la protéger. Le problème qui se pose aujourd'hui dans notre pays, quand est-ce que commence la vie humaine? Pour ceux qui favorisent la politique d'avortement, pour eux, ils croient que la vie commence à la naissance de l'enfant. Mais pourtant, les recherches scientifiques et d'autres considérations sur le plan médical attestent que c'est à la conception que commence la vie humaine. Donc, sur le plan de droit, il se pose un problème. Notre pays, à travers la Constitution, a opté pour une constitution, une conception pro-nataliste. Nous sommes en face de territoire aujourd'hui qui est, vous voyez, la densité de la population, elle est faible. Parce que la Constitution a prôné la préservation de la vie. Et quand vous partez de la Constitution, vous allez descendre sur les lois ordinaires, vous allez voir, par exemple, dans le code pénal, il y a, à l'article 178 de ce même code pénal, la propagande anticonceptionnelle ou antinataliste est érigée en infraction. Le simple de pouvoir répandre, de préconiser l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, d'exposer, de vendre, de distribuer, de fabriquer ou de faire fabriquer, de faire transporter ou de mettre un agent de transport ou engin destiné spécialement à faire avorter une femme, et tout distribuer de santé destiné spécialement à empêcher la conception, et favoriser dans un but de lucre des personnes d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non, qui divulguent le fait d'empêcher la conception en préconisant ou en fournissant les indications sur la manière de les procurer ou de s'en servir, et j'en passe, sont érigés en infraction et l'auteur peut s'exposer à des sanctions pénales pouvant aller de 8 jours à 1 an de servitude pénale. Et vous allez voir d'autres incriminations telles que l'avortement, telles que l'administration des substances nuisibles à la santé, sont des garde-fous que les constituants, les législateurs ont mis sur pied de manière à faire en sorte que la vie qui est reçu des dieux soit préservé. Nous devons savoir que nous ne sommes pas des propriétaires de nos vies ou de la vie de nos semblables, mais nous sommes des simples intendants et le moment venu, nous devons rendre compte à l'Éternel. Donc, M. Gilles, c'est un problème de conception.
Oui, finalement.
Ce n'est pas un problème dans notre arsenal juridique.
Oui.
La loi est claire, telle que je vous l'ai rappelé, sous le plan de la Constitution et des lois ordinaires. Si jamais le gouvernement qui pense que résoudre le problème de fœtus qu'on retrouve des avortements et tout ça, il faut dépénaliser. Nous croyons que ça, c'est une manière de contourner le problème. Et au moment venu, s'il y a le débat, parce que ce débat est vieux, aussi vieux que le monde, en Occident, ils ont fait des avancées ou des reculs selon la protection. Il faudra, par exemple, soumettre cette question au référendum pour que cette question
que les gens se prononcent
et éthique soit départagée par la population elle-même. Ce n'est pas à l'exécutif, je crois, à mon humble avis, qui doit trancher cette question qui relève même de notre...
La moralité. Alors, Jérôme Nongo, nous vous gardons en ligne, vous êtes juriste indépendant. On va prendre Maître Elodie à Kinshasa et Docteur Sylvain à Lubumbashi. 081-890-6315 pour votre possibilité de participer à cet échange et partage citoyen.
Parole aux auditeurs.
Faudrait-il ou non dépénaliser l'avortement en République démocratique du Congo? Maître Elodie, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole. Comment réagissez-vous par rapport à la proposition de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur?
Oui, merci beaucoup, monsieur Gilles. Je salue tous les invités et les intervenants. Et ma première réaction, vraiment, j'ai désapprouvé et j'ai suis vraiment contre cette démarche-là de pouvoir dépénaliser l'avortement parce que ce n'est pas une solution efficace pour pouvoir mettre fin à ce problème tel que posé par le vice-premier ministre. Et de là, je veux dire, monsieur Gilles, que pour pouvoir évaluer une loi, il faut tenir compte de son efficacité, son efficacité et sa mise en œuvre. Qu'est-ce qui a failli dans cette loi sur la pénalisation, qui porte la pénalisation des
avortements,
pour qu'à ce jour, on tente ou on propose la dépénalisation des avortements? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, en tout cas, parce que j'ai suivi M. Labbé, je salue ce qu'il a dit, ce que le vice-premier ministre vraiment a dit, c'est que ne jetez pas les enfants dans la rue, allez les jeter.
Donc c'est juste la délocalisation, la délocalisation.
Et pour ça, monsieur Gilles, je vais dire ceci. Nous ne pouvons pas vraiment, on ne peut pas penser résoudre ce problème-là d'abandon,
oui.
Et moi, dépénalisant l'avortement. Pourquoi? À mon avis, ce qui serait peut-être fait, c'est de renforcer les dispositions sur qui sanctionnent l'abandon d'enfants. Il y a une loi sur la protection d'enfants qui prévoit la responsabilité des parents, la mère ou le père. Et là, il s'agit ici de réfléchir comment renforcer les mesures, les sanctions quant à l'abandon d'enfants. C'est ça la solution qui serait efficace. Ça, c'est une chose. Parce que dès lors qu'un parent, mère ou père, sait qu'il y a des fortes peines ou une lourde sanction lorsqu'il abandonne un enfant, il va se comporter en conséquence. Ça, c'est une chose. L'autre chose, si on parle aussi, parce qu'on a parlé de la morale, de la société occidentale, d'autres pays qui ont dépénalisé l'avortement, qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, l'Occident, ce n'est pas un modèle quant à la moralité ou à la culture, aux valeurs à préserver, parce qu'on est chrétien et tous ceux qui ne le sont pas, il y a quand même des valeurs universelles qui méritent d'être protégées. Et là, je suis désolée, l'Occident n'est pas un modèle, n'est pas un exemple à suivre. Il y a toutes les conséquences qu'on subit, que le monde subit aujourd'hui, suite à ça. Et on ne peut pas suivre cet exemple, et là, je suis désolée. Autre chose, par rapport toujours à cela, il y a lieu vraiment de renforcer l'éducation morale, l'éducation à la vie dans nos écoles, au sein de la population, parce qu'il y a aussi un grand nombre qui n'a pas accès à l'éducation et qui abandonne les enfants. Donc, pour les atteindre, on ne va pas les avoir dans les écoles. dans, on va vers eux. C'est ça, il faut que la société civile, les organismes, les ONG comprennent qu'il y a une lourde responsabilité vis-à-vis. Et donc, le problème est complexe et il ne s'agira pas du tout vraiment, si on veut résoudre ces problèmes, de pouvoir dépénaliser l'avortement. Ça sera vraiment créer d'autres problèmes tout en cherchant à, ou en pensant que c'était pour
résoudre ces inattentes. Merci beaucoup, Maître Elodie, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre le docteur Sylvain qui est à Lubumbashi. Bonjour, docteur Sylvain.
Bonjour les journalistes.
Alors, on sait quand même que c'est une question transversale. Oui. Il y a la morale, il y a également le droit à la dedans. Il y a les aspects aussi sanitaires et psychologiques, pourquoi pas sociologiques aussi, qui entrent en ligne des comptes. Alors, vous êtes médecin. Aujourd'hui, dépénaliser l'avortement, c'est comme pour dire légaliser les travaux que fait au quotidien le médecin. Il y a des médecins qui travaillent d'une manière clandestine, jour et nuit, nuit et jour, donc par rapport à cette question. Donc c'est une façon d'officialiser maintenant les choses.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la question posée. En science, lorsque nous voulons parler science, je crois que cette question relève beaucoup de défis qu'il faut vraiment surmonter. Moi, je pense que la solution qu'a proposée le ministre est une solution très louable. Très louable dans le sens où, lorsque nous regardons même les statistiques posées par les pays qui ont légalisé l'avortement, les conséquences liées à l'avortement sont vraiment diminuées. Alors, moi, je pense qu'il faut nécessairement, donc la proposition du ministre, c'est une proposition qu'il faut obtempérer, disons. Pourquoi nous soutenons cela? Nous avons fait une étude ici à Lubumbashi sur l'étude des causes d'hospitalisation en gynécologie en 2010. Nous nous sommes rendus compte que les avortements prenaient en soi 56% sur la totalité des malades hospitalisés à l'hôpital.
Mm-hmm.
56%. Et lorsque nous prenons les autres pathologies, ça prenait juste 5, 10, 15%. Alors, c'est un problème qui prend vraiment de l'ampleur, sur le terrain. Avec les conséquences que nous connaissons tous. Et on continue toujours dans ce genre de rythme? Non. Prenons les cas de, par exemple, de la fibrocide. Il y a légalisé l'avortement. Les taux de conséquences, les risques que couraient les femmes qui avortaient clandestinement a diminué sensiblement. Aujourd'hui, ils sont autour de 4%. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut laisser les femmes courir les mêmes dangers ou les corriger la situation. Si nous allons, tous ceux qui sont en train de dire non, il ne faut pas légaliser l'avortement, il ne faut pas. Ce sont eux qui sont les premiers demandeurs des services d'avortement.
Mais docteur Sylvain, on sait que la loi, disons, nous référant à l'article 16 de notre Constitution, on se rend compte que la personne humaine est sacrée. Et là, oui,
dans le cas de la vie de la personne, est sacrée.
D'un crime.
Mais c'est cette... Je ne me souviens pas. La vie de la personne est sacrée. Même dans les différents codes de déontologie. C'est que l'avortement est tellement interdit. En se référant sur l'article 166-167 du Code pénal, l'avortement est interdit. Alors, dans quel sens nous pourrions maintenant soutenir les ministres afin que les dangers que courent nos filles, parce qu'aujourd'hui nos filles sont mises, la vie de nos filles et nos mamans sont mises en danger. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer toujours dans cet élan.
Oui, mais l'abbé Marcus disait tout à l'heure, ça relève de la notion d'éducation sociale. Il faut quand même qu'on puisse renforcer le système. Et Maître Elodie l'a ajouté, l'éducation à la vie au sein des écoles pour former nos enfants. Il y a également cet aspect de renforcement des mécanismes relatifs au planning familial et tant d'autres dispositifs pour empêcher réellement. Et c'est vrai que ça peut être une ligne de voie, mais bon, que nous trouvons que certains, les uns et les autres, trouvent pas être idéal.
Bon, l'aspect social, oui, on n'en disconvient pas. C'est cet aspect social-là qui est en train d'être soutenu aujourd'hui, d'être conservé. Mais les avortés avortent. Il y a le décès lié à l'avortement. il y a aujourd'hui l'infirmité liée à l'avortement. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Qu'on garde la même histoire avec toutes les conséquences possibles?
Hein? Merci beaucoup, docteur, d'avoir appelé 081-800-9315 pour votre intervention en direct. Nous faisons les débats autour de la proposition, alors qui n'est pas encore officielle. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchard, préconise la dépénalisation de l'avortement pour faire reculer les phénomènes des bébés abandonnés. Il l'a dit, en tout cas, lors de son intervention à l'Assemblée nationale. Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis. Bonjour, Joséphine.
Bonjour Radio Okapi, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Hier, quand j'ai lu les titres du débat d'aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de filles, de femmes qui devaient intervenir. Mais on prend tellement le débat tel qu'il est. Mais je remercie la dame qui a appelé.
Maître Elodie.
Ce que je veux dire, à partir de ce débat ici, comme il n'y a pas l'intervention des femmes, vous devez comprendre ce que la société congolaise a fait de la femme. Ça, c'est un débat de la femme. On devait avoir tout le monde qui devait appeler, ça devait être des filles et des femmes. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais au lycée, donc j'étais en première CO, on ne parlait pas, chez nous on ne parlait pas, ma mère ne m'a jamais parlé le problème de sexe, on m'a jamais parlé le problème de grossesse. Alors en premier CO, il y a une fille qui était un peu grande là, elle était grosse. Ce qu'on a fait d'elle, on l'a chassée de l'école. On l'a chassée de l'école et puis sa vie s'est arrêtée là. La vie s'est arrêtée. 6 ans après, j'ai raconté la fille, elle n'était même pas mariée, elle a continué à faire les enfants. Donc ce que je veux dire par là, le problème d'avortement, ce n'est pas un débat, on n'est pas encore là. On est d'abord au problème de grossesse. On a fait, la société congolaise a fait croire, fait voir aux filles, aux mamans, aux dames qui ne sont pas encore mariées, que si tu as une grossesse, par exemple, si, pour une fille, à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans, si elle est grosse, c'est comme si c'était un grand problème, c'est une honte pour la société. Or, ce n'est pas une honte pour la société. On ne peut pas commencer à arrêter les vies des gens, on ne peut pas commencer à punir les filles qui sont grosses comme ça, parce que quand vous punissez des filles comme ça, et prochainement elle sera encore grosse, et prochainement elle va encore avorter, parce que c'est une honte. Et puis ça c'est l'âge des 18 ans, et des 12 ans jusqu'à 18 ans, si on comprend encore l'âge des filles à l'université. Une fille qui tombe grosse à l'université, elle doit avorter. Pourquoi? C'est une honte. Tout le monde va se moquer d'elle. Les filles qui sont à l'âge de se marier, si tu tombes grosse, on ne te mariera plus. Oh, elle est grosse. Elle a déjà eu un enfant. C'est un problème. Ça, c'est ça le grand problème. Dans des mariages, dans des couples, quand quand un couple a un bébé, aujourd'hui, l'année prochaine, la femme tombe grosse encore, c'est une honte dans le quartier. Tout le monde va commencer à parler. Oh non, tu vois la femme là, elle meurt beaucoup au monde. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Mais ce n'est pas une honte. Ça, c'est ça même, c'est ça la base de tout. C'est ça, il faut vulgariser d'abord le problème des grossesses.
Voilà. Il y a même des
problème avec le gouvernement, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait ça. Malheureusement, le ministre est venu dire seulement qu'il faut, comment il a dit, il faut plus qu'il y ait des pénalités. Il faut
dépénaliser l'avortement. L'avortement.
Mais est-ce qu'il est venu avec des statistiques? Où est-ce qu'il a fait une étude là pour dire que, ok, mes chers amis,
oui, 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 madame,
on a pris,
oui,
on a pris, par
oui,
exemple tel quartier,
oui, madame,
on a observé les filles de tel âge, les mamans, on a vu qu'avec de pénaliser l'avortement, on a vu que ça a donné. Il faut des études. Vous ne pouvez pas venir seulement comme ça. Oh non, il faut dépénaliser l'avortement.
Merci.
Non, le problème, ce n'est pas dépénaliser l'avortement. Le problème, c'est voir pourquoi les filles tombent enceintes. Pourquoi les mamans ont de... Il n'y a pas d'espace de naissance.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai eu trois enfants, quatre.
Voilà.
Mais c'était une autre
On va accorder la parole à notre personne qui attend. Merci beaucoup, Joséphine, Madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston aux États-Unis, 081-890-6315. Et vous pouvez également poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse chinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le meilleur de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Kapi met le Congo à la une.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cet échange et partage citoyen. Jérôme Nongo, non, vous êtes juriste indépendant. Vous êtes avec nous. Vous venez de suivre là cette longue deuxième série des auditeurs. Comment vous réagissez, Jérôme?
Monsieur Gilles, merci. Je suis avec attention les différentes interventions qui viennent d'avoir lieu. La question soulevée aujourd'hui, c'est une question sérieuse. Ça porte sur la vie. Propriétaire de nos vies. Nos vies appartiennent et viennent de Dieu. Et nous n'en sommes que des simples intendants. Un intendant ne peut poser du bien qui est juste. Le débat philosophique, les confessions, je l'ai démontré, a pour la doctrine pro-nataliste. Nous avons un grand territoire, nous avons un grand pays, et la densité fait que le pays n'est pas assez peuplé, il faut favoriser l'occupation de ce pays. C'est vrai, aujourd'hui la misère, la pauvreté et bas salaire font de sorte que la famille est en train d'être détruite, les parents n'ont plus autorité sur leurs enfants et les enfants arrivent à tomber grossesse. Est-ce que pour cela, il faut quand un enfant vote quelque chose, il faut le supprimer? Moi, je ne pense pas. Notre droit est assez clair, je l'ai démontré. Le titre second de notre constitution, à travers les articles 11 et 16, énonce clairement que la vie humaine est sacrée et en tant que telle, l'État a une mission de la protéger. Et toute une incrimination spéciale a été mise sous pied à l'article 178 du Code pénal contre la propagande anti-nataliste. Donc, vous comprenez, J.R., si on voudrait, c'est vrai, le vice-premier ministre a le mérite d'avoir lancé un débat. Il n'a pas décidé d'emblée, pour ça nous lui jetons des fleurs, mais il doit savoir que l'opinion est claire, nous sommes des Bantous, la vie est en cité, et ça serait nous reculer à plusieurs années-lumière. Pour votre rappel, ça c'est un débat autour de la peine de mort. Vous savez qu'il y a un vieux débat aussi vieux que le monde sur entre les abolitionnistes et les rétentionnistes. Et notre pays aujourd'hui, quoi que dans notre constitution, dans la Sénat de peine, la peine de mort est retenue, mais on n'exécute plus les condamnés à mort. Pour vous démontrer que ce n'est pas de manière détournée que nous allons légaliser la peine de mort en décrétant la mort de nos semblables qui demain peut-être seront des autorités dans ce pays. Donc pour ne pas m'éterniser, M. Gilles, je crois que l'état de notre droit est clair. Et notre philosophie partout est aussi claire, nous sommes pour la vie, nous faisons le culte de la vie. Les difficultés que nous éprouvons actuellement ne justifie en aucun cas pour que nous puissions.
Oui, Jérôme, oui, Jérôme. Oui, Jérôme, les débats.
Et nous devons lui rendre compte au dernier jour sur ce que nous aurons pu à nos vies et à nos vies de semblables. Sinon, Dieu nous risquera de nous demander comme à terre. Avez-vous fait de vos frères?
Oui, mais Jérôme.
Nous arrivons à décréter ou à dépénaliser l'avortement.
Oui, mais Jérôme, la grande difficulté aujourd'hui, c'est faire comprendre à quelqu'un les débats autour de ce que ressort du droit moderne, où la solution est généralement que le nouveau-né n'acquiert sa personnalité juridique qu'à la naissance. Avant sa naissance, il n'est donc pas une personne. Voilà, donc c'est un objet juridique, selon les droits modernes. Est-ce que vous, tout ce que vous venez de dire, est-ce encore la route?
Oui, l'homme en soi, la vie, ce n'est pas seulement une réalité juridique. Elle est une réalité philosophique, elle est une réalité
morale.
Spirituelle. Que l'homme, il y a un grand philosophe français qui a dit que le 20e siècle, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera. Si l'homme, l'âme, dans l'homme, l'âme n'a pas de sa place, la spiritualité n'a pas de sa place, c'est-à-dire nous allons dans la dérive en JR. Pour me résumer, je dis ceci. C'est vrai que l'homme, pour être sujet de droit, il faut qu'il naisse viable et vivant. Mais l'homme étant une réalité spirituelle, sa vie remonte à sa conception. À sa conception, la vie, l'homme, la vie est déjà complète, elle est intégrale. Et au nom de ce principe-là, on ne peut pas décréter de la suppression de ce futur semblable au nom pour venir à bout d'un phénomène, d'un problème qui est réel, si on peut résoudre à d'autres, on peut résoudre ça par d'autres moyens, mais pas par la voie de l'élimination.
Voilà, donc vous partagez l'avis selon lesquels qu'aujourd'hui la solution pour arriver à faire reculer le phénomène des bébés abandonnés, il faut améliorer les conditions dans lesquelles, les conditions de précarité dans lesquelles vivent certains parents qui sont aujourd'hui démissionnaires et irresponsables, qui n'arrivent pas à assumer une bonne éducation sociale de leurs enfants, et ce qui donne comme résultat l'avortement et tant d'autres phénomènes que nous enregistrons à longueur des journées. Nous vous gardons encore en ligne pour conclure, Jérôme Nongo, si vous pouvez encore nous accorder quelques minutes, donc 5, et nous demander également à Kidimo de Lumbashi et Maître José de Mujmaï de garder également la ligne. Voilà, nous poursuivrons avec parole aux auditeurs. Tidimou, vous êtes à Lumbashi. Bonjour Tidimou. Vous avez la parole, Tidimou.
C'est vraiment très intéressant, mais ce que je suis en train de me donner, c'est que quand ils prennent des lois, vivent au Congo. Parce que quand vous regardez dans les années antérieures, quand on a grandi, dans les années 60, 50, pour une voie de prostituée, dans un bar, c'était très, très, très difficile. Il y avait la police. Maintenant, aujourd'hui, avec ce que vous appelez la mondialité ou la civilisation, moi, je dis qu'est-ce que c'est ça, vous allez voir à 18h, mais s'il y a un mini-jupe, personne ne s'occupe. Vous allez voir dans les boîtes de nuit, des petites filles, personne ne s'en occupe. Et donc, il faut arrêter. On doit commencer d'abord à éduquer, à faire des centres de formation pour nos jeunes filles. Moi, je me souviens encore à l'état de Mobutu. Il y avait des centres féminines qu'on appelait Maman Mobutu, où on récupérait toutes les filles pour les enseigner. Mais qu'est-ce que le Congo manque comme argent pour faire ces centres-là? Pour récupérer toutes ces filles qui présentent très mal à patrouiller la ville. Les récupérer et pour mettre dans ce centre-là, pour lui donner une bonne éducation et lui donner la morale. Ça ne sert à rien de voter les lois le matin et de les appliquer l'après-midi. Non, on doit arrêter. Ce pays est très riche. Nous sommes africains.
Oui.
Jamais vous allez voir une fille femme dans l'État, en pantalon, en culotte, devant ses parents. Aujourd'hui, on voit des filles en mini-jupe devant les parents, ils s'en foutent.
Alors, on
doit arrêter la prostitution au Congo. On doit arrêter les filles en mini-jupe. On doit refaire les femmes en pantalon. On doit mettre fin à cette histoire-là.
Mais si on peut revenir au débat, à notre débat du jour, Tidi Mou, nous parlons de ce qu'a préconisé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour faire éclater le phénomène des
rébellions. C'est favoriser la Constitution.
Le phénomène des rébellions.
Si on sait qu'on va voter parce qu'il n'y a pas de problème, l'État ne va pas me suivre, le parti ne me suivra pas, la justice ne va pas me suivre. Et puis, on va me suivre par gêne, cette répression qui existe aujourd'hui au Congo. Par gêne, on ne peut pas.
Donc, pour vous, ça risque même de heurter le maître congolais.
On va commencer la procession, monsieur, parce que un avortement dans l'État, on a arrêté. Et celui qui a fait cet acte-là doit être arrêté, amené en prison.
Donc,
et là,
voilà.
On doit amener des criminels sur le territoire. On amène des criminels, ça va se faire partout. Ça va être très léger.
Voilà, la dépénalisation de l'avortement renforcera plutôt la prostitution en République démocratique du Congo. Tidimou, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tidimou, d'avoir appelé de Lubumbashi. Maître Josué, vous êtes en Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, Maître Josué.
Vous avez la parole.
Oui, merci. Je remercie tous les invités, les auditeurs de la radio Okapi et tous les intervenants. Monsieur Jureur, je voulais d'abord commencer par une petite inquiétude parce que dans notre pays, quand on veut résoudre un problème, on cherche à créer autant aussi. Nous avions le problème des fosses communes de Maluku. Pour résoudre ce problème, c'était une question avec débat. Le vice-premier ministre Excellence Evariste Boshab, il va là-bas pour créer encore un autre problème. Au moment où il nous est confié à la question fausse commune. Nous disons que l'Occident, si nous voulons copier, nous ne pouvons pas toujours prendre des mauvais exemples de l'Occident. À l'Occident, il y a des très bons exemples que notre gouvernement n'a jamais eu pris soin de limiter. Vous avez le problème des législatures, 5 ans après les élections et après deux législatures, vous n'êtes pas candidat. Ils n'ont jamais copié, lui c'est un constitutionnaliste. Le problème d'avortement, bien que l'avortement c'est un crime sans victime, mais par rapport au contexte dans notre pays, par rapport à la culture, par rapport à la philosophie d'un Mutu, non, mais nous allons exposer la société congolaise. Est-ce que vous pensez que pour résoudre les problèmes des enfants abandonnés sur la rue, faudra-t-il dépénaliser l'avortement? Jamais. Je m'inscris en faux. Je suis avocat. Nous sommes habitués à déjà des procès. Mais c'est un mensonge pur et simple.
Ben oui, mais ces derniers temps, Maître Josué, on a tous suivi l'actualité. 320 bébés abandonnés, des fœtus donc. Et aujourd'hui encore, il y a d'autres cas qui ont été révélés. Vous n'estimez pas, vous ne pensez pas comme les autres que vraiment il y a la dépénalisation de l'avortement serait l'idéal?
Non, 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 monsieur Juillet. Pourquoi 320 bébés abandonnés? Mais nous sommes dans un pays où les gens vivent la pauvreté à un niveau plus élevé. Vous pensez que quelqu'un qui a des moyens pourra-t-il abandonner son bébé? Non, non. À quelqu'un, vous payez 70 000 francs, vous payez 60 000 francs, et vous, par rapport à votre déplacement d'un endroit à un autre, vous prenez 10 000 dollars, vous prenez 50 000 dollars, mais vous payez à quelqu'un pour tout un mois 60 000 francs, et quand il va abandonner l'enfant à la mort, ça va vous faire des peines. Ça ne jamais de peine. Mais je jure, pour enterrer ces gens-là, chacun dans sa tombe, c'est des espaces qui manquent au Congo. Et à Kishata, vous n'avez pas d'espace, nous, ici, en Mbujimayi, il y en a autant. Des sites non exploités.
Voilà, merci beaucoup.
C'est quand même qu'il y a des enfants abandonnés sur la rue, c'est un phénomène qu'il faut seulement réaliser.
Merci beaucoup, Maître Josué, d'avoir appelé des Mbujimayi. Jérôme Nongo, vous êtes avec nous. Si on peut essayer un tout petit peu d'atterrir un peu, voilà, donc avec des conclusions. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? C'est vrai, il y a cette proposition de la pénalisation, de la dépénalisation de l'avortement pour faire reculer les phénomènes des bébés abandonnés. Et vous avez suivi les uns les autres depuis le début de cette émission. Il y a eu pas mal de propositions et également des inquiétudes et pourquoi pas des passions aussi par rapport rapport à cette question. Pourquoi en ces temps, et pourtant nous référant à l'article 16 de notre constitution, on se rend compte que la personne sacrée et la personne humaine est sacrée. Aujourd'hui, dépénaliser l'avortement, c'est aussi tendre vers la révision de cet article de la constitution.
Merci, JR. Vous savez, le débat a été très intéressant et transversal. Et moi, j'ai fait un effort pour me cantonner sur le point juridique. Je me suis efforcé de démontrer que notre pays a fait le choix et le bon de s'inscrire dans la voie pronataliste, c'est-à-dire de favoriser la venue au monde de Congolais. Il est vrai, et je l'ai démontré à travers la Constitution et les lois ordinaires, il est vrai que nous sommes confrontés à un dérèglement sur le plan éthique, moral, où la famille n'existe presque plus. Mais nous devons comprendre que le problème d'avortement dans ce pays, ce n'est pas seulement un simple problème du gouvernement. C'est un problème de toute la nation. C'est-à-dire, nous parents, nous sommes interpellés. Qu'est-ce que nous faisons des enfants? Pourquoi? Nos filles, est-ce que nous avons encore de l'autorité sur elles? Nous devons répondre à ces questions. Les hommes d'église, les prêtres, les pasteurs, les évêques, doivent aussi, dans leur prêche, ramener la famille au milieu du pays, parce que c'est la famille qui développe le pays. Et les enseignants aujourd'hui qui parlent des points sexuellement transmissibles, qui posent des problèmes à nos enfants que nous envoyons pour la formation qui détruisent, qui sont aussi interpellés de manière à ce que la nation congolaise aujourd'hui, quel est ce pays que nous allons léguer à la prospérité demain comme nous chantons dans notre hymne national? Donc c'est une interpellation. Le vice-premier ministre a eu le mérite de provoquer un débat, il n'a pas refermé. Je crois qu'à travers ces débats, nos autorités ont bien compris que l'opinion n'est pas prête à faire ses bons vers le néant, parce que nous avons opté pour la philosophie pronataliste. Voilà.
Merci beaucoup, Jérôme. Avant de nous préparer, voilà. Merci beaucoup. Alors, on va juste entendre Confiance qui est à Kinshasa. Confiance qui nous a rejoint. On ne peut pas l'empêcher de ne pas lui accorder la parole. Confiance, vous êtes avec nous. Bonjour, Confiance.
Bonjour, merci, Mbote Djambo, à tous les occupants de la Radio de la Paix. Je vais vraiment être bref parce qu'on est presque à la fin.
Oui.
Non seulement nous allons heurter le mœurs, mais nous allons aussi aller à l'encontre des lois congolaises, africaines, morales et religieuses. Nous allons même contre la volonté de Dieu qui nous demande de nous multiplier. Nous allons aussi profondément pécher contre le vœu et notre serment envers notre nation. Nous avons promis et nous jurons chaque jour en chantant l'hymne national, je cite, « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons sa grandeur ». Même la puissance démographique aussi est un facteur de développement si celle-ci est citoyenne et elle est encadrée. Monsieur le ministre doit savoir qu'il y a mieux à faire que la dépénalisation de l'avortement. La raison qu'il avance pour la dépénalisation est tellement insuffisante pour en créer une loi et supprimer une autre. La clé du problème se trouve, je crois que c'est celui de demander à lui, dans lui-même d'abord, s'il peut accepter de jeter un enfant dans la rue. Compte tenu de l'étendue de notre pays,
merci beaucoup, Confiance. On a plus assez de temps, donc on va s'arrêter là. Les débats restent ouverts, comme l'a dit d'ailleurs Jérôme Nongo, à qui nous disons merci d'avoir accepté d'une manière un peu prompte cette invitation pour répondre et modérer cette émission en tant que juriste et poser le regard juridique. Nous disons également merci à l'abbé Marcus Bidungwa, philosophe, qui a accepté de participer à ces débats, de contribuer également sur des questions morales. Et nous vous remercions, vous tous, tous les auditeurs qui avaient participé à ces débats, qui selon vous, étaient pertinents. Donc, il reste encore ouvert. Nous allons y répondre très, très prochainement. Le vice-premier ministre qui vient de préconiser donc la dépénalisation de l'avortement pour faire reculer le phénomène des débats. Hérité Sidiakal a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie Pesa Bongonda. Il faut noter que ce programme vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.